superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
C'est pas le temps de faire ça.
Loïc, bonjour.
Bonjour Benoît.
Bon, alors l'Irak qui essaie de se faire des amis.
L'Irak essaie de se faire des drôles d'amis. Et elle vient de le premier ministre irakien, Mohamed Shia al-Soudani, vient de signer un traité de partenariat stratégique avec qui? Avec la France, avec Emmanuel Macron. Et ça, c'est un peu une surprise, parce que la France n'était pas un si gros joueur en Irak. Ce sont les États-Unis, c'est la Russie qui est un gros joueur. La Chine même pourrait être un gros joueur. Pas du tout. L'Irak cherche à se rapprocher de l'Europe et elle le fait à travers la France. Alors, dans le traité, on trouve quoi? On trouve beaucoup d'achats d'armement. L'Irak promet d'acheter de l'armement français. Les Français disent qu'ils vont former des troupes irakiennes et les Français s'engagent aussi à évidemment poursuivre la lutte contre le terrorisme. Remarque que ça, on voit mal comment ils pourraient dire non, nous allons arrêter de lutter contre le terrorisme. Il va y aussi y avoir une aide française à la lutte contre la corruption, parce que l'Irak est un pays extrêmement corrompu, et donc on va essayer de lutter contre cette corruption. Bonne chance, c'est un travail de très longue haleine. Et aussi, la France va restaurer le réseau électrique irakien. Il y a 10 milliards de dollars qui sont prévus pour la construction d'une centrale photovoltaïque en Irak. Donc, un rapprochement vraiment très très intéressant, un rapprochement qui permet à l'Irak d'avoir une influence sur Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron qui est avec l'Allemagne, un des deux piliers, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Donc, pour l'Irak, c'est très intéressant. Et pour Macron, ben il y a quand même un accès à des ressources stratégiques en gaz et en pétrole. Et on sait que la Russie, évidemment, ne livrera plus de gaz et de pétrole à l'Europe dans quelques temps. Donc, c'est un accord qui est, si tu veux, qui est mutuellement bon pour les deux.
OK, ben on va suivre ça. Puis la déforestation en Amazonie, c'est pas terminé, hein?
C'est pas du tout terminé. En fait, on apprend de tristes nouvelles. C'est la revue Science qui a publié deux études là-dessus. Et on dit, attendez, la déforestation, ça touche 17% de la forêt amazonienne, comparé à son origine. Mais c'est bien pire que ça, parce qu'en réalité, il y a de la dégradation de la forêt qui se fait. Et ça, cette dégradation de la forêt, c'est 38% de la forêt. Et de quoi parle-t-on? Ben, on parle de sécheresse en grande partie, parce que comme la forêt a rétréci, ben, il pleut moins, il y a moins moins d'évaporation, etc. Donc, il y a 38% de cette forêt qui est très dégradée, ce qui fait que elle dépérit. Par exemple, on décide de garder de certains espaces, certaines zones de forêt, mais ces zones sont entourées de champs, de villes, etc. Ben, ces zones se dégradent rapidement parce qu'elles ne reçoivent pas suffisamment d'eau. Même chose pour l'Amazon qui s'ensable énormément. Et cette sécheresse provoque aussi des incendies de forêt. Il y aurait des incendies de forêt dont la superficie serait de 2 à 4 fois supérieure à celle qu'elle avait il y a quelques décennies. Oui. Donc, ça va pas bien. Et à ce rythme-là, les gens disent, écoutez, les chercheurs disent, d'ici à 30 à 50 ans, 50 à 70% de la forêt amazonienne sera dégradée. Et c'est une perte de biodiversité énorme. Mm-hmm. C'est pas nécessairement que ça émet beaucoup de carbone, encore que, évidemment, les forêts qui brûlent émettent beaucoup de carbone, mais ça pose un grave problème, parce que ce qui émet vraiment beaucoup d'oxygène sur la planète, ce sont les océans, ce sont les plantes océaniques qui contribuent le plus pour ça. La forêt amazonienne est à peu près équilibrée, elle émet autant de CO2 qu'elle absorbe, qu'elle émet d'oxygène, donc ça, c'est pas vraiment là le problème. Mais La bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle, c'est que Da Silva, le président du Brésil, veut organiser dans les prochains mois un sommet sur l'Amazonie pour essayer justement de voir ce qui va arriver avec la Amazonie dans les prochaines décennies. Et il promet de nouvelles lois pour justement encadrer le développement de, l'Amazonie, encadrer sa protection aussi, beaucoup mieux l'encadrer. Et je pense que c'est une excellente nouvelle, tu vois.
Bon, il pourrait replanter des arbres aussi, Lula, s'il voulait, là.
Ça pousse tout seul, hein. Il faut surtout, dans ces zones tropicales, t'as pas besoin de planter, ça pousse très très rapidement. Le problème, c'est que on perd beaucoup de biodiversité, comme je te le disais.
Ouais,
le problème, c'est que la déforestation apporte de la sécheresse à bien des endroits. Et là, t'as beau replanter, si t'as pas d'eau, ça pousse pas, hein.
Bon, selon Reuters, une bonne partie des organisateurs républicains sont fatigués de Donald Trump.
Oui, ça m'attriste.
Ben oui.
Parce que Donald Trump, c'est quand même quasiment, ça a été pendant des années le pain et le beurre de tous les chroniqueurs et de tous les journalistes. Puis on s'est bien amusé avec lui, même si c'était assez tragique à certains égards, mais. Reuters a été interviewé des gens au New Hampshire, 10 organisateurs, des grands organisateurs du Parti républicain là-bas, et surprise, 3 sur 10 disent que oui, ils vont aider Trump dans sa campagne, ils sont Trumpistes toujours, etc. Mais il y en a 7 sur 10 qui disent non, ça suffit. On en a assez de Donald Trump, on en a assez de ses controverses, on en a assez de ses drames constants, on en a assez, on veut passer à autre chose. Et donc, Reuters dit, ça sent un peu la soupe chaude pour Trump. Il y a très peu d'enthousiasme à le soutenir. Mais en réalité, il y a quelqu'un d'autre qui se soutienne. Et tu le connais, c'est DeSantis.
Ah oui.
Floride. Et c'est lui qui monte. Évidemment, à l'échelle nationale, DeSantis, pour le moment, est derrière Trump. Au niveau national, chez les républicains, Trump est toujours à 55%. Mais DeSantis est à 29%. Et il monte. Et DeSantis est beaucoup plus jeune, beaucoup plus en forme. Je dirais plus intelligent et plus habile que Donald Trump. Et plus dangereux aussi.
Ouais.
Parce qu'il n'a pas hésité à faire passer des annonces en Floride où il se faisait passer pour le Messie. Hein, c'était l'envoyé de Dieu sur Terre pour résoudre tous les problèmes. Et ce discours-là, ça séduit en particulier les évangélistes. Ils sont presque 30% aux États-Unis. D'ailleurs, Trump est sorti contre les évangélistes en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous manquez de loyauté, je vous ai appuyé, notamment avec l'avortement, et en retour, vous m'appuyez plus ?» Ben non, en retour, ils l'appuient plus. Ils appuient celui qui passe pour l'envoyé de Dieu sur Terre, le nouvel envoyé de Dieu sur Terre, Monsieur DeSantis.
Ah ouais. Bon, c'est le nouveau chérubin républicain. On va voir
dangereux,
ça.
Dangereux, DeSantis.
Ouais, mais il y a de l'argent aussi, hein. Les gens l'appuient, ça veut dire qu'ils mettent de l'argent. Ce que Donald Trump a de moins en moins, je pense.
En tout cas, son rapport d'impôt montrait qu'il y avait des problèmes, semble-t-il, oui.
Bon, et l'American Press n'utilise plus le terme français, c'est vrai?
Non, c'est dingue. La Associated Press, l'American Press, pardon, c'est la référence pour les journalistes aux États-Unis, et ils publient chaque année un style book, si tu préfères, un guide stylistique. Et c'est Le Monde, le journal Le Monde, qui rapporte ça. On dit qu'il faut plus utiliser certains termes désormais parce que ça serait dégradant, n'est-ce pas ? Alors, faut plus dire les pauvres, faut plus dire les malades mentaux, il faut plus dire les Français d'ici, les handicapés, les diplômés universitaires. Il faudrait dire, par exemple, plutôt les personnes en situation de maladie mentale. Alors, il y a des journalistes qui regardent ça et qui disent « Mais vous êtes complètement dingue, vous êtes tombé sur la tête, il faudrait plus dire les Français. » Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Il faudrait dire des personnes en situation de francité ou des personnes d'expérience française
ou
des gens assignés français à la naissance ou des personnes ayant fait l'expérience d'un croque-monsieur. Évidemment, ils se moquent, si tu comprends. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça ? Et qu'en est-il pour votre Associated Press ou American Press ? Qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que comment faudrait dire ça, des gens ayant fait l'expérience de la paix? Et les riches, est-ce qu'il faudrait dire des personnes en situation de cupidité?
ça commence à ressembler à ça. Hein?
C'est du wokisme total. Ouais. C'est le refus de tout ce qui peut attacher un individu à un groupe. Et en réalité, c'est une manifestation d'individualisme fanatique qu'on a là.
Tu penses que parce que tu changes les mots, tu changes la réalité? C'est ridicule. Bon, ben écoute, Loïc, un gros merci. Puis on se reparle lundi.
Ça marche, salut.
Ciao.